Le changement climatique met en danger la santé humaine et les preuves sont accablantes selon un récent message de l'OMS. Et alors que la COP21 bat son plein, l'un des grands sujets de préoccupation concerne justement l'impact du changement climatique sur notre santé. Même s'il est encore difficile d'évaluer la part spécifique des facteurs climatiques sur la santé, les risques sanitaires sont nombreux et couvrent un large spectre qui va des maladies respiratoires au cancer, en passant par les allergies et les pathologies mentales. C'est le dossier donc cet après-midi de La Tête au Carré en partenariat avec Santé Magazine. Toutes vos questions et vos messages dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. La drôle de tête de Néandertal enfin révélée, c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, si l'homme de Néandertal avait une face si différente de celle de l'homme moderne, c'est avant tout une affaire de croissance et c'est à la une de la science.
Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré avec un dossier préparé par Lucie Sarfati avec Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Santé et réchauffement climatique, donc, dans le dossier cet après-midi. Aline Perraudin, Florence Clément, Robert Barouki et Bruno Housset. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les quatre.
Bonjour.
Bienvenue. Robert Barouki, est-ce que ce lien entre climat et santé est connu maintenant depuis longtemps?
Il est connu, enfin il est suspecté depuis longtemps, mais on a, comme souvent en science, des arguments de plus en plus solides mettant en évidence donc ce lien et à différents niveaux. Mmh. Soit des liens directs, soit des liens indirects par la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les allergies, etc.
Bruno Housset, quelle est la principale pathologie justement concernée par le réchauffement climatique?
En pathologie respiratoire, c'est essentiellement l'asthme qui est concerné, mais aussi d'autres pathologies chroniques respiratoires, tout ce qui est allergie aussi. Hein.
Aline Perraudin, il y a des gestes à faire justement pour agir contre les effets du réchauffement climatique sur la santé?
Oui, ce qui est bon pour le climat peut être aussi bon et impacter notre santé. Donc c'est important, on peut agir aussi individuellement, comme notamment, par exemple, faire du vélo au lieu de prendre sa voiture, manger moins de viande, végétaliser son alimentation. Voilà, il y a plein de petits gestes, pas toujours simples, mais qui peuvent changer les choses.
Et Florence Clément, en modifiant nos comportements, on peut faire beaucoup justement, hein?
Oui, alors c'est vrai qu'on est tous, on a tous un rôle à jouer. Hein. Il n'y a pas seulement les gens qui fabriquent des produits qui ont leur rôle. Tout le monde a son rôle, le citoyen aussi, peuvent aider à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Allez, on va se retrouver donc tous ensemble dans quelques minutes avec les messages des auditeurs auxquels vous répondrez. À la une de la science aujourd'hui, la drôle de tête de Néandertal.
Sa gueule, excusez-moi l'expression, avec le pas de menton, les grosses orbites, le crâne allongé en ballon de rugby alors que nous on est tout rond, etc. Et lui évidemment, avec son physique un peu prognate et tout.
Voilà, c'était la préhistorienne Marilène Patou-Matisse. Malgré son génome quasiment identique à celui de l'homme moderne, eh bien les traits de l'homme de Néandertal, apparu il y a 200 000 ans, sont complètement différents. Et des chercheurs new-yorkais ont observé les mâchoires de plusieurs hommes néandertaliens et conclu que tout est une question de croissance. On va vous expliquer pourquoi. Bonjour Jean-Jacques Hublin.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck de Leipzig. Vous êtes avec nous depuis Rabat au Maroc. Alors d'abord pour ceux, Jean-Jacques Hublin, qui n'auraient encore jamais vu le crâne de l'homme de Néandertal, vous pouvez nous rappeler à peu près les différences avec le visage de l'homme moderne?
Bien, si vous rencontriez un homme de Néandertal dans le métro, ce qui vous frapperait certainement le plus, c'est sa face justement.
Oui.
Une face très longue. Projeté en avant, surtout dans sa partie centrale, avec un appendice nasal très spectaculaire et puis un bourrelet susorbitaire très marqué au-dessus des yeux, en avant d'un front fuyant et une grosse tête arrondie.
On connaît très bien, Jean-Jacques Hublin, l'ADN de Néandertal. Maintenant, la génétique n'avait pas permis d'expliquer cette forme bien particulière?
Bien, on a fait énormément de progrès dans la connaissance du génome de l'homme de Néandertal, mais c'est un problème général en génétique. On a beaucoup de mal encore à faire le lien entre un codage observé dans l'ADN et puis des traits morphologiques observés sur le squelette ou ailleurs.
Alors comment ils s'y sont pris, les chercheurs new-yorkais, précisément pour observer ces différences entre hommes modernes et néandertaliens, Jean-Jacques Hublin?
Il faut d'abord dire qu'on s'intéresse beaucoup aux enfants, de plus en plus. D'ailleurs, je suis à Rabat en train de travailler sur un petit enfant de 8 ans qui est mort il y a 100 000 ans et qui, lui, est du côté homme moderne, pas du côté néandertal.
Mm-hmm.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde au microscope électronique la surface osseuse pour essayer de reconnaître des signes de ce que l'on appelle l'apposition ou la résorption. C'est-à-dire que des cellules sont spécialisées dans la construction du squelette et d'autres dans la dissolution, la destruction du tissu osseux. Et au cours de la croissance, c'est l'interaction entre ces deux groupes de cellules qui créent des formes différentes. Et donc on peut reconnaître à un très fort grossissement des surfaces qui sont des surfaces en train de se creuser, ou au contraire des surfaces qui sont en train de se développer en épaisseur. Et il y a d'ailleurs de très jolies photos dans cet article qui vient d'être publié. On voit des surfaces qui ressemblent un peu à la surface de la Lune, avec des cratères, et qui correspondent justement à ces surfaces de résorption.
Et quelles sont les principales différences de croissance entre le crâne de Néandertal et celui de l'homme moderne ?
Alors, l'homme moderne, contrairement à l'homme de Néandertal, il a lui une face très très courte, très rétractée. Elle est placée sous la boîte crânienne. Et ce que l'on observe au cours de la croissance, c'est que, eh bien justement, chez l'homme moderne, c'est la résorption qui l'emporte, si je peux dire, alors que chez les néandertaliens, tout au long de la croissance, eh bien, l'apposition de couches d'os successives continue et au final donne ce résultat très spectaculaire, hein, avec cette face très très développée, très très grande.
Est-ce que ça veut dire que si on comparait de très jeunes bébés, on ne verrait presque pas de différence entre les deux groupes ?
Alors, c'est pas tout à fait vrai. Nous avons travaillé avec mes collègues de Leipzig il y a quelques années sur la croissance du cerveau et de la boîte crânienne. Et là, effectivement, on a très peu de différence à la naissance. Et on voit ces différences entre hommes modernes et néandertaliens se mettre en place, disons, pendant la première année de la vie. Alors pour ce qui est de la face, on a déjà des différences, et même à la naissance, on pourrait reconnaître un petit néandertalien d'un homme moderne, mais ces différences vont s'accentuer énormément au cours de la croissance jusqu'à l'adolescence.
On peut aller au musée de l'homme d'ailleurs, hein, Jean-Jacques Hublin, en ce moment, il y a un crâne d'enfant néandertalien, hein, qui fait partie des pièces majeures justement du musée et qui montre bien déjà les différences à un âge précoce. Qu'est-ce que ça veut dire justement ces différences de morphologie ? Est-ce qu'on peut parler davantage, par exemple, pour l'homme moderne, le fait d'avoir un visage ou des os moins proéminents par rapport à Néandertal ?
On a longtemps mis en relation cette forme particulière de la face moderne, rétractée, avec une réduction du système masticateur. Et il est exact que les hommes modernes, en tout cas les hommes actuels, ont des arcades dentaires beaucoup plus faibles, réduites, que celles qu'on trouve chez nos ancêtres lointains ou chez les néandertaliens. Alors, cela étant dit, ces dernières années, on se rend compte qu'il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Dans la face, la cavité nasale en particulier est soumise à l'adaptation au climat et varie beaucoup d'une latitude à l'autre chez l'homme moderne et aussi chez les formes fossiles. Et puis surtout, on s'est rendu compte que le hasard aussi avait joué son rôle. Et au gré des fluctuations démographiques, hein, surtout chez les néandertaliens, avec des goulots d'étranglement très marqués, certains groupes de gènes se sont trouvés sélectionnés un peu par hasard, enfin sélectionnés, retenus un peu par hasard. C'est ce que les généticiens appellent la dérive génique. Et on pense que cet éloignement progressif de la forme néandertalienne et de la forme moderne au cours des derniers 300 ou 400 000 ans, c'est surtout le résultat d'une évolution séparée et qui parfois va un petit peu au hasard.
Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin pour ces explications donc autour des révélations sur la face de Néandertal, et bonne journée donc à Rabat au Maroc, vous étiez avec nous en ligne. Merci beaucoup.
Très bien, merci.
À bientôt. À bientôt. Axel également, on se retrouve demain pour une nouvelle une.
À demain Mathieu.
Dans les coulisses de la COP21 avec reporter.net.
Allez, on file au Bourget, on retrouve Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Les choses se précisent pour la mise en place d'une taxe sur les transactions financières et l'annonce est d'importance.
Oui, c'est l'événement du jour, puisque au sein de la COP, pour l'instant, ça mouline à plein de tubes en groupe de travail, mais il n'y a rien d'attendre de fort aujourd'hui. En revanche, c'était à Bruxelles que s'est passé quelque chose d'important, c'est le rassemblement de 10 pays, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, la Grèce parmi les plus notables, pour décider du principe d'une taxe sur les transactions financières. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont accepté le principe d'une telle taxe, qui sera très utile, par exemple, pour financer l'aide aux pays en développement dans la lutte contre le changement climatique. Le hic, et c'est un gros hic, c'est que c'est une déclaration de principe, mais avec beaucoup d'exemptions, et qu'on va discuter l'année prochaine de l'essentiel, à savoir le taux de ce prélèvement. Donc voilà, les ministres de ces 10 pays ont un petit peu botté en touche, et ça ne risque pas finalement très bien accueilli au sein de la COP au Bourget, puisque ça signifie que les pays riches, les pays européens en tout cas, hésitent beaucoup à taxer les transactions financières.
Et puis du côté du mouvement citoyen, Hervé, il se déplace vers Paris.
Voilà, il se déplace vers Paris, le lieu intéressant à suivre et qui est d'ailleurs tout à fait ouvert au public, hein, tout le monde peut y aller, c'est la zone Action Climat, qui se trouve à un endroit qu'on appelle le 104, et ça se trouve 5 rue Curial dans le 19e. Il y a plein de conférences, de débats, il y a un programme vraiment très riche et très intéressant, et puis l'AG de la Coalition Climat, c'est-à-dire que le regroupement des ONG s'y retrouve tous les jours à 19h et fait par exemple un point sur les négociations. Donc là aussi c'est ouvert au public et tout le monde peut aller suivre ce qui se passe. Peut-être un mot pour vous dire, Mathieu, que demain, à l'heure, un certain nombre d'ONG vont faire des actions pacifiques et non violentes à travers Paris, et peut-être demain, à l'heure de notre rendez-vous, je pourrais être quasiment en direct pour vous dire, bah tiens, à tel ou tel endroit de Paris, il se passe telle et telle chose.
Eh bien, on est preneur, Hervé, et puis on suit en attendant toute la COP21, entre autres sur votre site reporter.net. Merci beaucoup, Hervé Kempf, et à demain.
À demain.
Allez, en bref, pour finir dans le reste de l'actualité scientifique, les cafards communiquent par leur matière fécale. C'est ce que révèle une étude américaine qui a étudié le comportement d'agrégation des blattes germaniques. Et nous savions déjà que les cafards se guidaient et se regroupaient chimiquement par leurs phéromones. Eh bien, on ignorait le rôle majeur joué par les bactéries intestinales se trouvant dans leurs excréments. Eh bien, c'est leur parfum qui attire les autres cafards. Sans ces bactéries, les cafards ne s'agrègent pas. Ces résultats pourraient être utilisés pour réaliser des pièges à cafards plus efficaces. Et si le mégalithe de Stonehenge avait été déplacé du Pays de Galles à l'Angleterre, c'est ce que laissent entendre des archéologues britanniques qui sont parvenus à identifier la date et le lieu d'extraction des pierres bleues formant le cercle intérieur du mégalithe. Il s'agit d'une carrière au Pays de Galles, exploitée entre 3400 et 3200 ans avant notre ère. Or, ces menhirs n'ont pas été érigés à Stonehenge avant 2900 ans avant notre ère. Il semble difficilement imaginable que les constructeurs aient mis 500 ans donc pour déplacer les pierres entre la carrière de pierre au Pays de Galles et le site actuel de Stonehenge. Les chercheurs estiment donc que les pierres ont d'abord été utilisées pour un autre monument près des carrières. Allez, dans un instant, santé et réchauffement climatique.
et The Do à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et les conséquences du changement climatique sur la santé, c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi en partenariat avec Santé Magazine. Mes invités pour en discuter, répondre à vos messages. Robert Baroucki, vous êtes biochimiste et toxicologue, directeur de recherche à l'INSERM, professeur à Paris Descartes, médecin à l'hôpital Necker. À vos côtés, Bruno Housset, vous êtes chef du service de pneumologie au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Aline Perraudin est également avec nous, directrice de la rédaction de Santé Magazine, avec deux pages consacrées, Aline, aux bons gestes pour la santé et pour la planète également. Et puis Florence Clément, vous êtes chargée de communication à l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Les messages donc arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. On le disait tout à l'heure en sommaire, l'OMS a lancé récemment un appel d'urgence en faveur d'une intervention pour protéger la santé face au changement climatique en affirmant que justement le changement représente la plus grande menace pour la santé au XXIe siècle. Pourquoi aussi peu d'intérêt pour cette question pourtant cruciale, selon vous, Robert Baroucki? Et au sein même de la COP21, d'ailleurs.
Oui, parce qu'on a en fait mis beaucoup l'accent sur des problèmes d'énergie, des problèmes économiques. Donc c'est le rôle aussi de la COP21 de régler ces questions-là. Et c'est vrai que les problèmes de santé n'étaient pas au premier plan. En revanche, tout ce qui entoure la COP21, il y a pas mal d'initiatives, il y a pas mal d'expositions, il y a pas mal d'informations autour de la santé. Et je pense que là, par contre, il y a pas mal d'informations là-dessus.
Aline Perraudin.
Peut-être parce que c'est en fait une catastrophe lente et qu'on mesure pas encore tout à fait l'impact sur notre santé du réchauffement climatique. Je crois qu'on mesure plus l'impact de la pollution atmosphérique et c'est un peu différent, même si on le dira plus tard, je pense que c'est vraiment lié.
Oui, c'est toute la difficulté, Florence Clément, cette temporalité au fond du phénomène.
Alors, quand on interroge les gens, ils sont quand même conscients qu'il y a un problème. Ils le savent. Oui. Mais en fait, ils ne savent pas exactement comment ça impacte leur quotidien. D'ailleurs, ils ne savent même pas vraiment qu'ils sont eux aussi responsables d'un bon nombre d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, l'information est très diluée. Et c'est vrai que souvent, ces dernières années, on a vu que d'autres problématiques ont pris le pas. La crise économique a beaucoup changé la donne. On a vu un très fort engouement, un besoin de savoir au moment du Grenelle environnement parce que ce sujet était vraiment mis en avant. Et puis d'autres sujets sont arrivés aussi importants pour la vie des gens. Donc l'information s'est elle aussi diluée. On a vu ces dernières années en fait peut-être une diminution du savoir. Et les gens ne se rendent pas toujours vraiment compte en fait de ce qui se passe dans leur vie de tous les jours.
Bruno Housset, 2 degrés en plus, entre 1,5 et 2 degrés en plus, ce sont des effets majeurs sur la santé humaine ?
À savoir des conséquences extrêmement importantes. Et en fait, c'est un problème de lien entre le réchauffement climatique, la pollution et la santé. Et en fait, on sait que le réchauffement climatique est lié à la pollution. La pollution, on est quand même relativement informé sur ce qui se passe avec les pics de pollution qui sont très médiatisés.
Et là, on voit Pékin, ce qui se passe en ce moment, et qui saisit vraiment toute la population mondiale.
En sachant quand même qu'a priori, c'est quand même la pollution de fond qui est la plus toxique sur le plan sanitaire. Ouais. Donc, on parle beaucoup des pics de pollution, mais c'est quand même la pollution de fond qui est importante.
Ouais. Robert Baroucki, justement cette situation en ce moment en Chine, c'est directement lié au changement climatique ou avant tout aux émissions humaines?
Non, il ne faut pas tout mettre non plus sur le changement climatique. Il y a des comportements humains, il y a les transports, il y a l'énergie, l'industrie qui provoquent une série de gaz à effet de serre, mais aussi des particules. Et ce qu'on voit beaucoup en Chine, c'est un problème de particules dans l'atmosphère. Et le tout concourt avec le changement climatique. Le changement climatique va participer à cet état, à la qualité de l'air en général, à la mauvaise qualité de l'air. Ce sera un des contributeurs. Par exemple, une augmentation de l'ozone peut être due au changement climatique. Ça, ce sont des choses qui sont bien établies. Mais si vous avez de l'ozone, des particules, tout ce beau mélange avec tous les gaz,
un joli cocktail,
ça peut avoir des effets majeurs et pas seulement dans 20 ou 30 ans, des effets majeurs tout de suite, comme on le voit d'ailleurs.
On le voit en Chine. Absolument. Larry nous dit, est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent de renverser le postulat initial de votre émission, à savoir que c'est le déséquilibre mondial de la santé qui conduit au réchauffement.
Le déséquilibre mondial de la santé qui conduit au réchauffement.
Comment il faut interpréter ça ?
Eh bien,
c'est une proposition de notre auditeur. Vous en faites ce que vous voulez.
Mais il faut admettre qu'il y a différentes. On aboutit à une situation donnée avec plusieurs causes. Et il n'y a pas une seule cause qui va. On a tous envie d'avoir une cause unique qui explique tout. Et souvent, on se rend compte que c'est pas la situation. Mm-hmm. Comme on l'a dit, il y a la pollution, il y a le changement, et les deux se conjuguent ensemble pour donner cet effet sur la santé.
Bruno Housset.
Inverser la proposition me paraît un tout petit peu, je dirais, compliqué.
Ou alors la santé mentale peut-être, humaine, peut-être en partant de ce principe-là.
Je voulais juste insister sur les allergènes, parce qu'on parlait des particules, des gaz, l'ozone, mais aussi les allergènes qui vont augmenter de façon importante, et ça va avoir des conséquences directes sur les maladies allergiques, notamment respiratoires.
Oui. Rue Barbarouki, justement, comment on mesure cette part de responsabilité du réchauffement climatique sur la santé humaine? Parce que là, pour le coup, c'est extrêmement complexe et multifactoriel.
Complexe et multifactoriel, on a beaucoup de mal à dire... dans les problèmes que vous avez, il y a 20% qui est dû au changement climatique, 20% aux voitures. Peut avoir des estimations comme ça, un tout petit peu globales, en comparant des situations différentes où dans un cas, on a essentiellement une augmentation de l'ozone à cause d'un réchauffement, et dans d'autres cas, on a plutôt une situation, une ville qui est à côté, avec beaucoup de transports, à côté d'industrie et autres. Et là, on peut comme ça avoir une idée, et dans certains cas, ça peut mener à des chiffres, mais avec pas mal d'incertitudes. Non, on a un peu de mal à donner des chiffres très précis. Et d'ailleurs, il faut vraiment considérer le problème dans son ensemble. C'est comme ça, à mon avis, qu'on gagne le plus. Et il faut travailler sur tous les plans.
Un événement qui a marqué, bien sûr, tous les esprits, c'est la canicule de 2003. On va retrouver Patrick Peloux, le président des médecins urgentistes, qui faisait part de son inquiétude et de sa colère à ce sujet.
Les couloirs des urgences de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà submergés de brancards. Et il n'est que 9h ce matin. Principalement des personnes âgées déshydratées, déjà malades, et que la canicule affaiblit davantage. Une situation catastrophique qui aurait, selon les médecins urgentistes, provoqué la mort de 50 personnes en 4 jours à Paris. La Direction générale de la santé minimise et évoque, elle, des morts naturelles, ce qui provoque la fureur de ce médecin débordé.
Oui, tout malade, finalement, c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert? Ça veut dire que finalement, on va laisser ce phénomène perdurer et on ne va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction générale de la santé? Ils se moquent de qui? Le problème, il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, mais ils n'auraient pas dû mourir.
Robert Barouki, la canicule 2003. Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un effet direct du changement climatique, justement? Parce que là, on est dans un phénomène météorologique, quand même.
Bien sûr, mais le changement climatique fait que ce type d'événement va être plus fréquent. Et ce type d'événement a pu exister et existe. Mais la fréquence et l'intensité de ces événements augmentent en raison du changement climatique. Donc, ce qu'on a connu en 2003, on pense qu'on va le connaître de plus en plus. D'ailleurs, 2015 n'était pas du niveau de 2003, mais enfin, il y avait quand même quelques journées bien chaudes. Et d'autres étés seront de ce niveau-là, et peut-être que ce sera quelque chose d'habituel si on ne fait rien dans quelques années ou quelques dizaines d'années.
Combien de morts en plus l'année de la canicule en Europe? Les chiffres sont très impressionnants.
En 2003...
Je crois que c'est 70 000 à peu près.
J'ai 10 à 15 000 en France.
Ouais, 16 000 en France.
Bruno Housset.
15 000 en France, 2003, c'est le chiffre que j'avais gardé en mémoire. Mais en fait, le réchauffement climatique est à l'origine d'événements météorologiques extrêmes.
Et qui vont se multiplier,
a priori.
Se
multiplier. Non seulement les vagues de chaleur, mais aussi les inondations, mais aussi des orages, etc. Et donc, ça va contribuer aussi à dégrader la qualité de l'air.
Quand on parle d'effets indirects, là, pour le coup, Robert Barouki, vous pensez à quoi?
On pense à, on a parlé de la qualité de l'air en général, là, qui est altérée, et donc avec toutes les conséquences respiratoires et cardiovasculaires, mais on peut parler aussi de la qualité de l'eau, la raréfaction de l'eau, le problème agricole lié à des problèmes de sécheresse. La qualité de l'eau va être, disons, de moins en moins bonne, avec sans doute des infections liées à l'eau, et pas que les infections liées aux moustiques, on va peut-être en parler, mais il y a aussi des infections liées à l'eau qui vont être de plus en plus importantes. Le choléra étant un exemple. Donc, ce sont des effets qu'on appelle des effets indirects, mais qui sont quand même ravageurs et qui, en importance, sont extrêmement importants.
Aline Pérodin, ce courriel de Christophe, est-ce qu'on peut pas voir également les effets positifs, comme la promotion des transports dits actifs, la marche, le vélo, qui réduirait l'obésité et le diabète, et puis le développement des espaces verts, qui auraient pourquoi pas des effets bénéfiques sur la santé mentale?
Oui, il a tout à fait raison. Encore faut-il qu'il y ait vraiment des politiques publiques saines et qu'on puisse réellement faire du vélo, se déplacer, par exemple, pour aller au travail.
Mais ce serait intéressant de voir justement, à partir des décisions qui seront prises, les effets là aussi sur la santé.
Bien sûr.
C'est une question extrêmement importante parce que à l'occasion de la lutte contre le changement climatique, on va pousser les gens à prendre un certain nombre de mesures, se déplacer, etc. Mmh. Ce sont des mesures qui sont bonnes pour leur santé, indépendamment presque du changement climatique. Donc les effets bénéfiques de cette lutte, de ce qu'on fait actuellement, vont aller au-delà du problème des 2 degrés ou de 3 degrés dans quelques dizaines d'années, mais vont toucher notre santé de manière beaucoup plus rapide.
Florence Clément.
Oui, en fait, les politiques publiques, elles sont déjà en train de se mettre en place. Il y a déjà beaucoup de choses qui favorisent des actions positives des particuliers. Il existe des plans de déplacement urbain, des plans de déplacement d'entreprise pour inciter justement les gens à se rendre au travail en vélo, voilà. Mais il existe aussi des choses pour aider les particuliers à améliorer leurs habitats, qui sont quand même une des très grosses causes d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Aujourd'hui, les bâtiments, ça utilise 45% de l'énergie en France. Et forcément, quand on brûle de l'énergie pour se chauffer, pour chauffer l'eau, etc., on émet des gaz à effet de serre. Donc, il y a une politique qui est en place depuis plusieurs années pour aider la rénovation énergétique des bâtiments, pour que ces bâtiments plus efficaces consomment moins d'énergie et donc émettent moins de gaz à effet de serre. Il y a énormément de choses en place, mais c'est l'information vers les particuliers qui n'est pas toujours suffisante pour qu'ils aient envie de s'y mettre et qu'ils sachent comment faire.
Bruno Housset, sur les effets positifs sur la santé aussi, des mesures à entreprendre.
Promouvoir quand même les déplacements effectivement non polluants. Et un exemple, c'est la voiture électrique, par exemple. Hein, et la voiture électrique à Paris, la Fondation du Souffle, on a un partenariat avec eux de façon à pouvoir avoir une idée. Ils peuvent intégrer des capteurs de particules de moins de 2,5 microns. Vous savez que c'est celle-là qui nous préoccupe. Et donc d'avoir une cartographie en temps réel de la pollution dans les rues de Paris, qui permettrait aussi de choisir un peu ses itinéraires si on doit faire du vélo ou si on doit se promener dans Paris.
Aline Perronin, je vous voyais réagir.
Je disais qu'il n'était pas actif et que le vélo sur des déplacements de 5 km était quand même, avait peut-être plus de bienfaits sur la santé parce que quand même la sédentarité est un vrai problème aujourd'hui.
Donc choisissez le vélo plutôt que la voiture, aussi électrique soit-elle, mais enfin c'est toujours mieux que rien.
C'est toujours mieux que rien et surtout d'avoir la cartographie. Je pense qu'un élément important actuellement pour s'adapter, c'est d'avoir des informations sur le niveau de pollution et de savoir où on peut aller éventuellement faire du vélo justement, ce qui est important, ou aller se promener. Et donc d'avoir une cartographie en temps réel de la pollution dans les rues de Paris ou dans les rues d'autres villes est un élément important de choix. Juste un mot pour raconter l'histoire de ce qui s'est passé à Londres quand même, où ils ont comparé, ils ont pris des asthmatiques, qu'ils ont fait marcher pendant 2 heures, soit dans Oxford Street, soit dans Hyde Park. Et donc, soit dans la verdure, soit au milieu des particuliers zèles. Et en fait, les asthmatiques qui étaient restés pendant 2 heures dans Oxford Street avaient une diminution de leur fonction respiratoire. Donc, c'est la pollution de fond. C'est pas un pic de pollution.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de ce dossier santé et réchauffement climatique, avec vos messages. On vous attend sur franceinter.fr.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça. Elle ne me touche pas, je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence. Elle ne me touche pas, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me
passer de toi.
Je pas, je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme
Oslo avec Blondino et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré. Robert Barocchi, Bruno Housset, Florence Clément et Aline Perraudin sont mes invités. Et à l'instant, vous avez reconnu, c'était la Mano Negra et pas Blondino. C'était pas assez de toi. Allez, les questions des auditeurs pour évoquer beaucoup les moustiques autour du réchauffement climatique. Viron, par exemple, tous ces moustiques qui remontent à la faveur du réchauffement et qui sont pathogènes, ne vont-ils pas provoquer des maladies chez l'homme? Comment s'en protéger, Robert Barocchi?
Enfin, il y a différentes techniques. C'est clair qu'il y a de plus en plus de moustiques porteurs de pathogènes qui remontent petit à petit vers le nord. On voit bien ça quand on regarde certaines cartes, vous savez, où il y a des au cours des ans,
avance,
voit que ça avance, ça remonte vers le nord. C'est parce que l'écosystème devient favorable pour ces moustiques. Ça ne suffit pas tout de suite, immédiatement, pour provoquer, disons, les pathologies. Il y a d'autres conditions qui sont nécessaires, mais on a vu déjà apparaître dans le Midi quelques cas endogènes de piqûres de moustiques qui ont entraîné du chikungunya. Donc dans le Midi de la France, il y a eu aussi une épidémie en Italie. Comment s'en protéger? Comme on se protège habituellement contre les moustiques, mais ça pose un vrai problème, parce que si un jour on nous propose des pesticides à grande échelle, ça nous posera un énorme problème quand on s'intéresse à la toxicité des pesticides. Donc il est vraiment important de prévenir cette augmentation des températures.
Bruno, c'est
sur l'île de la Réunion, ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Il faut donc limiter les eaux stagnantes le plus possible et effectivement essayer de limiter aussi l'usage de produits qui pourraient être toxiques pour la santé humaine.
Il faut parler de ces maladies vectorielles transmises par les animaux et des insectes qui se multiplient. Question de Damien.
Oui, il a tout à fait raison. Et ça, c'est une partie quand même assez importante, un gros morceau des effets du changement climatique sur la santé, surtout dans nos régions, mais pas uniquement. Vous avez des zones, par exemple, en Afrique qui n'avaient pas de paludisme et qui petit à petit commencent à en avoir parce que ça devient de plus en plus chaud, un peu humide, et donc ça favorise le développement du paludisme. Donc ça concerne le monde entier, mais dans nos contrées en particulier.
C'est au Sénégal, en tout cas, la plus grande cause de mortalité des enfants et des bébés, reportage du journal télévisé TF1 en 2006.
Le paludisme fait des ravages dans ces villages reculés. La saison des pluies approche. Dans un mois, les moustiques menaceront les plus faibles.
Assalamu alaikum.
Le responsable de la santé du district vient ici une fois par semaine pour sensibiliser les mères de famille.
On nettoie les maisons tout le temps pour que tout soit propre. Et puis on dit aux enfants de ne pas jouer près des eaux stagnantes parce que les moustiques pondent là-bas. Mais il faut nous donner des moustiquaires.
Dans ce dispensaire de Dakar, plus de 200 mères viennent chaque jour. Souvent, leur enfant a une simple fièvre et certaines sont à mille lieues d'imaginer qu'elle peut être fatale.
Donc chaque fois que les enfants font de la fièvre, les mamans ne font pas la différence entre une grippe, entre un palu. Et ça peut être très dangereux, bien sûr. Parce que c'est sûr que s'ils ne viennent pas au bout de quelques temps et que le palu se complique, ils arrivent souvent à un stade où la prise en charge est encore plus compliquée. Donc c'est mortel, quoi.
Voilà, Robert Barocchi, on pourrait voir apparaître des cas de paludisme en France?
Oui, c'est tout à fait possible, donc ça fait partie des choses qu'on craint actuellement. Donc effectivement, il faut savoir prendre les mesures habituelles qu'on a citées tout à l'heure contre les moustiques.
Vous parliez des cartes.
Il y a des efforts de vaccins aussi. Il y a des efforts internationaux qui sont très difficiles parce que c'est quand même une maladie qui tue énormément de personnes dans le monde. Donc c'est un vrai problème sérieux. Il n'y avait pas assez sans doute de travail dessus. Mais là, maintenant, il y a des efforts à l'échelle internationale qui sont faits pour essayer de trouver un vaccin contre le paludisme. C'est essentiel.
Vous parliez tout à l'heure des cartes géographiques. C'est vrai qu'elles se redessinent en permanence, justement. Plus les années avancent et plus on voit justement les zones évoluer.
On voit ça sur la météo, on voit ça aussi sur les pathologies. Vous savez, si vous regardez la carte prenons un exemple peut-être un peu différent, l'obésité par exemple, ou les maladies métaboliques ou autres, vous voyez une augmentation quasi épidémique de certaines pathologies depuis quelques dizaines d'années. C'est assez frappant.
Aline Perraudin, Florence Clément, alors sur les bons gestes justement, à la fois pour la planète et pour notre santé, qu'est-ce que vous préconisez dans les choix que vous avez sélectionnés justement pour Santé Magazine?
Bien, on avait choisi les déplacements parce que finalement, ça, c'est à la portée de tout le monde. On peut choisir de se déplacer autrement qu'en voiture. On peut choisir de ne pas partir en week-end, faire des distances en avion pour 4 jours. On peut réduire ces déplacements. On peut aussi choisir de consommer autrement.
C'est ça, sur les produits animaux
Sur les produits alimentaires, parce que produire 1 kilo de viande rouge, en fait, va nécessiter beaucoup plus de céréales, une production, en fait, qui va émettre plus de gaz à effet de serre que, par exemple, du poulet ou d'autres viandes blanches. On essaye aussi de préconiser tout ce qui va être plutôt du local, en fait, essayer aussi de maintenir une activité qui est une activité en fait qui agricole mais qui est plus de la région, essayer de moins multiplier les déplacements, et puis on alerte aussi sur tous les produits de consommation courante, parce que aujourd'hui il existe beaucoup de produits par exemple ménagers qui sont utilisés en grande quantité, des lessives, etc., mais en fait qui ne sont pas si neutres que ça. Et pourtant, il existe des produits qu'on peut choisir et qui, eux, ont limité leur impact sur l'environnement. C'est ceux qui possèdent un écolabel, l'écolabel européen. Donc aujourd'hui, il existe des produits qui vont impacter beaucoup moins l'environnement, mais il faut vraiment faire passer le message aux consommateurs. Il faut qu'ils sachent les reconnaître. Nous, à l'ADEME, on a publié un guide, justement, qui s'appelle « Les logos environnementaux sur les produits », parce qu'on a vraiment voulu informer les consommateurs de ce qui existe aujourd'hui et de ce que chaque logo veut dire. Voilà, donc on essaye vraiment d'engager les consommateurs à se renseigner sur ce sujet.
Aline Perraudin.
Oui, bah je rejoins Florence, notamment sur l'alimentation. Je pense que les Français n'avaient pas pris l'impact de la viande sur les gaz à effet de serre, notamment le bœuf qui produit du méthane, et une réduction de cette consommation, parce qu'on en consomme, même si on en consomme moins, on en consomme encore beaucoup, permettrait, et des produits laitiers permettraient de réduire les gaz à effet de serre. Et puis surtout, pour la santé, c'est quand même conseillé de végétaliser encore plus son alimentation. Donc voilà, et les déplacements, parce que je crois qu'on ne parle pas assez de la sédentarité. Donc sur des courts trajets, vraiment, essayer de ne pas prendre sa voiture.
Robert Marouki, ce qui est intéressant. On agit efficacement, justement, en changeant le comportement alimentaire?
Oui, je pense que c'est très important ce qui vient d'être dit. Mais ce qui est intéressant quand on parle de changement climatique, c'est qu'à chaque fois, on finit par aussi parler d'autres choses, de déséquilibre alimentaire, on finit par parler de pollution, pas nécessairement liée au changement climatique. Donc, c'est vraiment, ça nous pousse à avoir cette vision très globale des problèmes, et que ce soit des problèmes environnementaux, des problèmes d'alimentation, des problèmes de comportement. Ouais. Et donc, c'est véritablement ce qui nous pousse à avoir ce changement un peu dans les attitudes. Dans notre jargon, on appelle ça l'exposome, c'est-à-dire s'intéresser à l'ensemble des expositions et pas uniquement à une seule exposition avec un seul effet, avoir cette vision globale. Et on voit bien là, simplement dans notre discussion, qu'on finit par s'intéresser à des tas de choses extrêmement importantes pour notre santé.
Mais il y a beaucoup de choses à faire, hein, effectivement.
Oui, ouais, il faut y aller.
Bruno Housset, ce message de Charlotte. J'ai vraiment très peur, dit-elle, de tous ces effets sur la santé. Pollution, particules fines, pesticides, pollution, gaz d'échappement, peur des conséquences sur la santé de notre bébé d'un an, tout beau dans son corps, tout neuf, et sur notre santé. J'ai lu les conséquences de ces pollutions avec des cas de leucémie chez les jeunes enfants. Nous avons décidé de quitter notre maison et de partir au vert, mais nous savons que nous serons plus exposés aux pesticides. Alors là, pour le coup, voilà.
Choix est difficile, oui, effectivement. Non, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, il ne faut pas non plus dramatiser les choses, mais je pense que c'est important d'en tenir compte, et on peut positiver le message, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions du monde où on a amélioré la pollution et on a amélioré la santé respiratoire des enfants. En Californie en particulier, ils ont fait des efforts, notamment sur le transport automobile, de façon à réduire la pollution, et ça a des conséquences sur la santé respiratoire des enfants.
Je suis d'accord, lorsqu'on prend des mesures, ça marche. Regardez les dioxines, moi je travaille beaucoup sur les dioxines, il a suffi qu'on travaille sur les filtres dans les incinérateurs de déchets ménagers pour qu'on diminue considérablement la quantité de dioxines qu'on retrouve dans l'atmosphère. Quand on fait, ça marche.
Bruno, c'est
juste un point sur l'échelle de temps, parce que l'échelle de temps sur le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est extrêmement inerte, très long. Si on prend des mesures maintenant, c'est important pendant 30 ans, 40 ans. Mais il y a aussi maintenant, il faut agir tout de suite pour essayer de se prémunir d'un certain nombre d'effets sur la santé. Et donc ça, c'est une mesure d'adaptation. C'est sur la différence entre les mesures d'atténuation, où on veut essayer de diminuer effectivement le réchauffement climatique, et puis d'adaptation, c'est tout de suite comment on fait pour se protéger. Et l'effet sur les particules, l'effet sur le fait de faire de l'exercice physique est un élément extrêmement important, qui est très très général, mais qui permet dès maintenant d'avoir un effet sur la santé.
Allez, on parle avec vous dans un instant des maladies respiratoires et des allergies, évidemment, là aussi les conséquences directes du changement climatique.
Oslo, y'a le feu même alors. Ici je brûle de désir, pas comme il faut. Assez fou pour porter seul le flambeau. Oslo, y a le feu même alors. Babylone, j'ai perdu mon cœur. D'artichaut. Calciné mes veines au chalumeau.
Oslo. Et cette fois-ci, c'est bien Blandino sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Allez, nos invités dossier en partenariat avec Santé Magazine, justement sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur la santé. Ségolène nous envoie ce message, elle nous dit ceci: je suis désespérée en vous écoutant depuis Genève, j'ai de l'asthme d'effort, je circule partout à vélo, mes collègues se moquent de moi, roulent en 4x4, elles font des régimes, n'ont aucune conscience écologique, tout ça m'exaspère et je m'engueule avec tout le monde, c'est vraiment pas la solution. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre, Bruno Housset?
C'est extrêmement important de développer cette conscience citoyenne, que les gens prennent vraiment conscience des enjeux et puissent adapter leur comportement en fonction de cela. J'évoquais tout à l'heure la Californie. Clairement, il y a un comportement qui a changé culturellement. Mmh. Et donc ça, c'est important. Donc il faut qu'elle continue à se battre.
Oui. Ce message de Margot, je tenais à signaler qu'il est bien beau de parler d'isolation thermique des bâtiments pour moins consommer d'énergie liée au chauffage principalement, mais ça compense-t-il l'énergie qu'il faut pour produire la quantité de polyuréthane ou de laine de verre?
Ah oui, oui, je réponds Florence oui. Clément. C'est-à-dire que sur la vie d'un bâtiment, en fait, un bâtiment, ça dure environ 100 ans. L'isolé, en fait, sera toujours beaucoup plus efficace que de produire un isolant qu'on va dérouler sous le toit.
Bruno Housset.
Donc, conserver l'énergie, ça paraît extrêmement important, éviter de polluer. Mais l'autre aspect des choses, c'est la pollution domestique, la pollution intérieure. Et donc, dans les normes qui sont prévues des bâtiments, il me semble important qu'on ait aussi ces normes sur la ventilation des bâtiments et comment on peut réduire la pollution intérieure. Vous savez qu'on passe 80% de son temps quand même chez soi ou dans des bâtiments. Et donc, dans des bâtiments de façon générale, c'est chez soi et au bureau ou à l'école. Et donc, là, il y a un risque de pollution qui est important.
Serge nous dit, est-ce que vous avez fait le compte de la pollution atmosphérique générée par le transport aérien des participants de la COP21? Je ne sais pas si certains se sont amusés à faire les calculs, mais le bilan carbone doit être assez lourd quand même.
Ils ont dû compenser.
On peut faire une dérogation là quand même.
Oui, ils ont dû compenser.
Bon, et puis certains ont peut-être choisi quand même d'autres modes de transport. Les maladies respiratoires, Bruno Housset. Là, on voit clairement l'impact aussi des changements climatiques. Avec l'augmentation des pics d'ozone.
Les pics d'ozone, l'augmentation des allergènes. On voit, par exemple, sur l'ambroisie, il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent qu'il y a une augmentation prévisible qui est considérable avec une augmentation des allergies. Il y a des gens qui disent que, grosso modo, il y aura une personne sur deux qui sera allergique en 2050. Donc, c'est une augmentation, enfin, c'est un risque considérable, oui.
Eh bien, l'ambroisie, justement, petit reportage. Cette plante qui risque d'envahir l'Europe et quadrupler sa présence, justement, d'ici 2050.
L'ambroisie est l'une des plantes les plus allergisantes. Rhinite, conjonctivite, crise d'asthme. Dans la vallée du Rhône, on estime que 10 à 20% de la population est touchée.
Les patients les plus graves sont obligés de s'arrêter de travailler. Pendant cette période, en tout cas au moins une partie de cette période, au moment où les pics sont les plus élevés.
Le problème, c'est que cette plante originaire d'Amérique du Nord gagne du terrain. Elle a déjà colonisé la région Rhône-Alpes, l'Auvergne et la Bourgogne. Désormais, on la signale plus au nord et dans le sud-ouest.
Voilà, c'est vraiment l'ennemi public numéro un, Bruno Housset, cette plante allergisante ?
C'est un ennemi public. C'est-à-dire le numéro un, je ne sais pas dans le classement, mais on a d'autres allergènes qui vont effectivement se développer. Et ça fait très mauvais ménage avec la pollution particulière, puisque les allergènes peuvent se fixer sur les particules qui vont devenir des vecteurs et vont entraîner ces allergènes au fond du poumon.
On voit vraiment les pathologies respiratoires se multiplier. On parlait de l'asthme tout à l'heure dans un courriel d'auditeur.
On dit que 15% des nouveaux cas d'asthme sont liés à la pollution. Donc effectivement, et les asthmatiques souvent nous disent qu'ils sentent, ils perçoivent les pics de pollution.
Aline Perraudin.
Oui, sur les pollens aussi, il y a des périodes de pollinisation qui sont plus longues, donc on est plus exposé. Et puis c'est vrai qu'il y a ce mauvais ménage toujours entre pollution et pollen qui les rend plus agressifs. Donc c'est toujours un ensemble de facteurs en fait. Il faut agir sur plusieurs choses à la fois, mais on peut agir sur ces choses-là. Individuellement.
Robert Marouki,
oui, il y a quand même des cartes très bien faites. On peut voir aussi l'évolution des pollens. On peut se prémunir de tout. Enfin, c'est déjà bien d'être informé, comme de la pollution.
Il y a certains gaz dans l'atmosphère, donc liés à la pollution, qui peuvent faire exploser les pollens et augmenter leur capacité allergisante. On a parlé des particules. Mmh. Il y a aussi toute une série de contaminants chimiques qu'on prend qui modifient la réactivité immunitaire de notre organisme. Donc, ils jouent à un autre niveau, mais tout ça participe à des problèmes allergiques de plus en plus importants. Et on voit comment ce sont des influences multiples qui viennent provoquer quelque chose de pathologique in fine.
Et surtout, ce qu'on observe, c'est l'allongement des périodes, au fond, de production, par exemple, de ces pollens. Parce qu'évidemment, plus on a chaud, et plus, justement, ces pollens se développent sur le long temps.
Absolument. Ceux qui, comme moi, sommes sous antihistaminique pendant quelques mois de l'année, maintenant, on va en prendre encore plus longtemps. C'est assez embêtant.
Viron nous dit, la pollution atmosphérique est un véritable fléau de notre société. Les particules dues au diesel entraînent la mort de 40 000 personnes par an. Alors, je ne sais pas si on peut confirmer ce chiffre-là.
C'est ce qui a été effectivement dit il y a quelques années, 42 000, et c'est lié à la pollution particulière en plus. Ce sont des chiffres qui sont à... Ça donne un ordre de grandeur. Je pense que ça donne une idée de ce que ça peut représenter. Donc, c'est vraiment important de lutter contre cette pollution, d'avoir l'air le plus propre possible. Et donc, on aura moins de maladies respiratoires et moins de morts.
Combien de temps faudra-t-il avant qu'une telle catastrophe sanitaire ne soit enfin admise ? C'était la conclusion de ce message. C'était la question qu'on se posait aussi tout à l'heure, finalement.
Absolument.
En préambule.
Dans le milieu scientifique, ça commence vraiment à être assez admis. Vous avez parlé de l'OMS. Il y a eu toute une série d'articles extrêmement important dans des journaux comme le Lancet, le New England, vraiment mettant en avant les problèmes sanitaires liés au changement climatique, au changement global, disons, généralement.
Est-ce que les gens sont vraiment prêts ou capables à changer leur consommation, leurs habitudes, demande Cédric. Florence Clément, vous êtes une femme optimiste.
Oui, parce qu'en fait, je pense que si on leur donne des pistes et si on les aide à choisir autrement, ils le feront. En fait, ils ont besoin de comprendre, je pense, d'avoir du sens. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer qu'un produit est intéressant parce qu'il a moins d'impact, par exemple, à tous les niveaux. Au niveau de sa fabrication, de son utilisation, mais aussi de son rejet. C'est par exemple le cas des lessives écolabellisées. C'est un intérêt de choisir une lessive écolabellisée parce qu'elle est plus facile à être éliminée dans les eaux, mais elle a aussi nécessité moins d'énergie pour être fabriquée. Et elle est en fait tout aussi efficace qu'une autre lessive. Donc en fait, essayer de les encourager à aller vers des produits qui ont montré leur efficacité, qui sont disponibles. Alors ça, les lessives écolabellisées, vous en trouvez à tous les prix. Toutes les marques distributeurs en ont développé. Enfin, c'est pas du tout un produit rare. Et c'est déjà par des produits du quotidien comme ça qu'on peut commencer. Leur expliquer aussi, par exemple, que toutes ces bougies qui brûlent chez eux, en fait, qui sentent bon, en fait, donne l'impression qu'on vit dans un logement agréable. En fait, on vit dans un logement pollué.
Oui, ça, il y a eu des études là-dessus assez récentes, justement, sur les maladies respiratoires qui sont dues, justement, à ces parfums d'intérieur, Bruno Housset.
Qui provoquent une irritation, éventuellement, de l'asthme. J'aimerais quand même souligner que le tabac reste quand même un polluant auto-infligé.
C'est vrai qu'on finit presque par l'oublier.
On finit par l'oublier, donc j'aimerais insister sur cet aspect des choses.
C'est l'ennemi public numéro un.
Absolument.
Justement, pire que l'ambroisie, Robert Marouki.
Tout à fait d'accord. Non, mais il faut garder quand même en tête ce type suite de problèmes. Le tabac, bien sûr, l'alcool pour d'autres. Enfin, il y a quand même quelques grands problèmes de santé qu'il ne faut pas oublier à cette occasion-là. Mais il ne faut pas non plus négliger les autres. Donc, c'est important. Alors, l'information, c'est essentiel, les solutions. Et actuellement, au Grand Palais, il y a une... voilà, vous allez peut-être en parler.
L'exposition Climat et Santé, justement.
Voilà, exposition, entre autres. Et puis, c'est porte sur les solutions. Hein. Au Bourget, vous avez aussi des expositions. Mais là, c'est vraiment les solutions. Et chacun est venu avec des petites propositions de solutions pour essayer de... Donc, c'est très intéressant à visiter.
C'est à l'initiative de l'INSERM, c'est au Grand Palais en ce moment.
Pour la partie santé, oui, c'est à l'initiative de l'INSERM. Ouais. Et l'exposition de l'INSERM qui s'est baladée un peu partout en France, actuellement est à Paris, ministère de la Santé, Cochin et au Grand Palais.
Il y a même un hashtag Climat Santé, hein, pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Florence Clément.
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que pour choisir, en fait, il existe des indications sur les produits. Par exemple, vous choisissez une peinture, et bien vous pouvez en choisir une qui impacte moins l'air intérieur. Aujourd'hui, il y a une étiquette qui précise si la peinture est plus ou moins émettrice, et donc vous la reconnaissez, elle est classée en A. Ça veut dire qu'elle émet peu dans l'air intérieur. Bon, ben, cette étiquette, elle va bientôt être aussi disponible sur les meubles. En fait, elle est en train d'être sur beaucoup, beaucoup de produits. Elle existe déjà sur les moquettes, etc. Donc moi, j'invite les consommateurs, quand ils vont décorer leur maison, quand ils vont choisir ce qu'il faut pour nettoyer, pour décorer, etc., ben, de faire attention à ce qui existe sur les produits. Il y a déjà des indications et il faut en tenir compte.
Gaël nous dit, il faut comprendre que les dégâts sont avant tout pour l'homme. Il faut arrêter de parler des dommages pour la planète, ce qui est faux et abstrait. Alors bon, il y a quand même de gros dommages pour la planète.
Il y a évidemment de gros dommages et l'homme n'est pas la seule espèce en considération.
Mais peut-être que c'est une façon de le sensibiliser plus, en tout cas, que de parler des conséquences directes pour lui.
Mais il faut aussi parler de l'homme parce qu'effectivement, ça parle peut-être un peu plus aux gens.
Les écosystèmes s'appauvrissent aussi de façon importante. Hein, ça a des conséquences.
Et on ne peut pas séparer l'homme de l'environnement dans lequel il vit. La plupart, quand on parle d'ambroisie, on parle d'écosystèmes et on parle de plantes et on parle d'hommes en même temps.
Et de santé.
Donc de biodiversité. Tout ça est très lié, plus lié.
Frédéric nous dit, l'information des rues les plus polluées serait vraiment bienvenue, mais je me sens complètement délaissé par les pouvoirs publics qui ne font pratiquement rien pour les non-pollueurs. Bruno, où c'est ?
Pour les non-pollueurs ? Non, c'est clair qu'il faut... je pense que c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, l'information est un élément extrêmement important. Et de savoir comment on peut se prémunir, en particulier pour tous ceux qui sont particulièrement sensibles à la pollution. Les jeunes enfants, on vient d'en parler, les sujets âgés, et aussi les gens qui souffrent de maladies respiratoires chroniques ou de maladies cardiaques chroniques. Ouais. Donc c'est extrêmement important d'avoir l'information.
Les Chinois ont fait des études sur la climatisation dans les voitures.
Absolument, il y a un travail qui a été publié et qui montre qu'effectivement il est préférable de rouler à vitres fermées et plutôt avec la climatisation en route. Et on diminue les particules dans l'habitacle. Mais ils partent d'un tel niveau, les Chinois, comme vous le disiez tout à l'heure, que effectivement on a une efficacité. Donc je pense qu'il est extrêmement important de développer la recherche sur le sujet. Une recherche pragmatique sur, par exemple, faut-il porter un masque ou est-ce qu'il faut avoir des épurateurs d'air. Là, on a besoin d'avoir de la recherche.
Robert Barouki, pour terminer.
Oui, donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Et donc il faut avoir... C'est une recherche très multidisciplinaire hein, dont on parle, hein, que ce soit sur des cohortes, sur des populations, sur des expériences, mais aussi sur des petits capteurs, de la modélisation, des mathématiques et des sciences humaines pour voir comment on peut faire le lien entre la science et la décision politique qu'il y a derrière.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre. Je renvoie donc sur ce numéro de Santé Magazine actuellement dans les kiosques, à Aline Perraudin, avec donc les bons gestes pour à la fois la santé et l'environnement. Et puis le site de l'ADEME est en lien sur la tête au carré, Florence Clément, pour se procurer, par exemple, le petit guide dont vous nous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à tous pour vos questions.